Bonjour à toutes et à tous. Ça va, ma voix sort pas trop mal, mais je suis désolé si j'ai la voix un petit peu cassée. Nous avons eu la rentrée du groupe de jeunes hier, et du coup, le groupe de jeunes est toujours aussi vivant cette année qu'il l'était l'année dernière. Donc, traditionnellement, j'ai plus trop de voix le lendemain du groupe de jeunes, mais c'était avec joie qu'on a pu avoir notre rentrée hier. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir partager avec vous le thème de notre relation avec Babylone. Alors, dit comme ça peut être quelque chose de mystérieux. L'idée n'est pas de savoir quelle est notre relation avec les ruines babyloniennes en Irak actuel. Mais en fait, Babylone traverse un petit peu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse d'une certaine manière. Et je crois que c'est un thème qui a beaucoup de choses à nous apprendre sur notre relation avec notre société. Ça a beaucoup de choses à nous dire sur les questions qu'on peut se poser sur qu'est-ce que c'est pour nous d'être chrétien en France, qu'est-ce que ça implique comme relation avec le reste de notre société. Et d'une certaine manière, c'est un peu un avant-goût du week-end d'église que nous aurons dans 2 semaines, où Daniel Lichty nous parlera de ce thème d'être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Alors si vous trouvez mon approche insatisfaisante de ce thème-là, vous aurez bien mieux avec Daniel Lichty. Et si au contraire ce thème vous intéresse, ce sera une introduction pour aller plus loin dans 2 semaines avec Daniel Lichty tous ensemble en week-end d'église. Alors ce matin, on va voir ce thème en plus particulièrement dans le chapitre 29 du livre de Jérémie. Mais en fait, c'est quelque chose qui, comme je le disais, traverse toute la Bible d'une certaine manière. Il y a deux villes qui s'opposent tout au long de l'écriture. D'une certaine manière, tout au long de l'écriture, Babylone fait face à Jérusalem d'une manière ou d'une autre. Babylone, d'un côté, représente constamment cette société qui s'oppose à Dieu, de plein de manières différentes. Des Babel, et c'est pas forcément évident dans notre traduction, mais c'est le même terme, Babel ou Babylone, qui, avec cette opposition face à Dieu, cette manière de se mettre en concurrence face à Dieu. Cet empire babylonien qui ensuite va être en opposition au peuple de Dieu, qui va avoir une victoire sur le royaume de Juda en Israël et qui va emmener en exil une partie du peuple de Dieu. Et jusqu'à la fin de l'Écriture, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, cette société qui s'oppose à Dieu dans le jugement dernier, quand Dieu vient juger la terre, il vient détruire et faire tomber Babylone. Et à l'inverse, on a Jérusalem, cette ville du peuple de Dieu, quand ils entrent en terre promise, là où particulièrement est le temple, là où Dieu manifeste sa présence. Donc on a, d'une certaine manière, d'un côté Babylone qui représente la société qui s'oppose à Dieu, et Jérusalem, cette ville qui représente la présence de Dieu jusque dans l'éternité, où nous attendons la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, où nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens? On pourrait avoir une idée assez simple par rapport à ça. Si Babylone s'oppose à Dieu et si nous voulons être pleinement du peuple de Dieu, fuyons Babylone et attachons-nous à Jérusalem sous quelque forme que ça puisse se présenter. Mais on va voir, en particulier avec Jérémie, que les choses peuvent être un petit peu plus complexes que ça. Jérémie s'adresse au peuple d'Israël, où une partie du peuple a été vaincue par Babylone et est partie en exil à Babylone. Et ce qui m'a intrigué par rapport à ça, c'est justement qu'il dit deux choses qui peuvent sembler contradictoires. Au chapitre 29, qu'on va voir tout à l'heure ensemble, Dieu, au travers de Jérémie, nous dit « Recherchez la paix de la ville, donc de Babylone, où je vous ai exilé, et intercédez par elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Donc d'une certaine manière, cherchez le bien de Babylone, trouvez votre place ici et ne fuyez pas Babylone. Et pourtant, quand on arrive vers la fin, à partir du chapitre 50, et en particulier le chapitre 51, on peut lire « Fuyez de Babylone, que chacun de vous, sauf sa vie, ne soyez pas réduit au silence dans sa faute, car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur, il va la payer de retour comme elle le mérite. » Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut Chercher la paix de Babylone ou fuir Babylone? Et si on traduit ça pour notre société, est-ce qu'il faut essayer de trouver la manière de bénir notre société ou est-ce qu'il faut au contraire s'en tenir séparés au maximum? Alors, en espérant que cette tension vous apparaît clairement, qu'il y a une dialectique qui est difficile à comprendre, est-ce qu'il faut rester ou sortir de Babylone et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre société? Je vous invite à lire les premiers versets du chapitre 29 de Jérémie. Jérémie 29, à partir du verset 1. Voici les termes de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été exilés, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait exilé de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la grande dame, les hauts fonctionnaires, les princes de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle disait « Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ceux qui sont parmi vous ni par vos devins, ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est mensongèrement que vous parlent en prophètes en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclaration du Seigneur. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. » Jusqu'ici notre lecture. Alors voilà, pour reprendre quelques éléments de contexte, Babylone vient de remporter une victoire contre Juda, donc la partie sud d'Israël, et ils ont déporté en exil à Babylone une partie du peuple seulement, et en particulier les élites du peuple d'Israël. Et l'objectif, plutôt que de détruire tout un peuple ou de déporter tout un peuple, c'est de gagner le contrôle sur la tête du peuple, sur les élites, d'avoir une certaine forme d'assimilation culturelle, que ceux qui étaient à la tête de Juda deviennent d'une certaine manière des Babyloniens comme les autres, et qu'ils puissent être dociles au service de Babylone, et qu'ensuite ils puissent être des agents pour Babylone de retour à Juda. Et c'est l'exemple en particulier que nous voyons avec Daniel, qui est déporté et qui est fait haut fonctionnaire pour pouvoir d'abord servir l'Empire, mais d'une manière à rentrer dans le moule de la culture babylonienne. Sauf que pour beaucoup de juifs à ce moment-là, c'est simplement inacceptable. Et ils ne veulent pas être assimilés, ils ne veulent pas se mélanger à la culture babylonienne. Et c'est ce qui amène certains de leurs prophètes à prophétiser faussement, dire « Mais Babylone va tomber, ne vous installez pas ici, ne construisez pas de maison, ne faites pas de Babylone votre territoire, parce que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, Babylone va tomber et vous pouvez retourner dans votre pays. » Et c'est intéressant de voir tous les parallèles qu'il peut y avoir avec notre situation. De la même manière que c'était la situation de l'Église dans les premiers siècles, c'est aussi notre situation d'être le peuple de Dieu, mais d'une certaine manière étranger au milieu d'un peuple non chrétien. Et c'est la manière dont les apôtres s'adressent à leurs lecteurs dans les épîtres. Si on prend le premier verset de l'épître, la première épître de Pierre, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés. » Et de la même manière dans l'épître de Jacques, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. » Et tout au long de l'histoire de l'Église, et en particulier pour nous, nous sommes aussi l'Église, le peuple de Dieu, dispersés au milieu de non-chrétiens. Et nous avons aussi à nous poser ce même genre de question. Est-ce qu'il faut simplement attendre le retour de Jésus, attendre que cette société s'effondre et rester entre nous tant qu'il n'est pas revenu? Pour moi, c'est particulièrement significatif de voir à quel point, tout au long de l'histoire de l'Église, on a annoncé le retour de Jésus dans les prochaines années, et avec toujours des dates très précises. C'était le cas autour de l'an 1000, c'était le cas à l'époque de la Réforme, ça a été le cas autour de l'an 2000, et on peut avoir l'impression qu'à peu près tous les ans, quelqu'un va prophétiser que la fin, c'est pour l'année prochaine. Et il peut y avoir cette tentation de toujours être prêt à recevoir, et nous sommes prêts à recevoir le retour de Jésus, mais de toujours annoncer que Jésus revient demain pour ne pas avoir à vivre ici dans la situation où nous sommes. Et nous pouvons nous poser ces mêmes questions et avoir ces mêmes envies. Nous pouvons essayer de nous distinguer et de rester séparés au maximum de la société, ou au contraire, nous pouvons être le plus intégré dans la société au risque de perdre notre identité et notre spécificité de peuple de Dieu. Et dans ce sens-là, nous devons être attentifs à la réponse de Dieu, que Dieu a donnée à son peuple quand ils étaient en Babylone. Alors je vous relis les versets 4 à 6. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. La première partie de la réponse de Dieu est claire. Faites de Babylone votre chez-vous d'une certaine manière. Demeurez pleinement à Babylone. Ne soyez pas juste dans l'attente du retour, mais vous êtes là pour rester un certain temps. Alors, ne soyez pas là juste comme étrangers dans un camp de réfugiés en attendant le retour vers votre pays quand les choses seront stabilisées, mais vous êtes réellement là pour être des résidents légitimes. Et bien sûr que, tout comme eux, nous sommes dans l'attente de la suite, nous sommes dans l'attente de ce que Dieu a prévu pour nous, nous sommes appelés à entendre ses paroles et à vivre pleinement ici. Nous ne sommes pas juste dans l'attente du retour de Jésus, mais nous devons entendre cet appel à nous installer comme résidents légitimes de là où nous sommes. Et je trouve que ça a une résonance particulière pour Paris et la région parisienne, parce que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément un choix, et que ce soit nous ou n'importe quel Parisien aux franciliens, c'est pas forcément un choix d'être ici. J'étais marqué de voir encore cette semaine dans les journaux que 80% des cadres qui travaillent à Paris souhaitent quitter Paris. C'est-à-dire que essentiellement tous les cadres parisiens sont là que par contrainte et sont prêts à partir dès que possible. Et c'est toujours le palmarès des villes qui attirent les cadres parisiens. En ce moment, on parle beaucoup de Bordeaux, on parle de Nantes, de Lyon. Mais ça peut être vrai aussi d'attendre dès que possible de pouvoir aller un peu plus loin en banlieue pour avoir un prix du mètre carré qui permette d'avoir une maison. Ça peut être pour certains d'entre nous le projet de retrouver le soleil des Caraïbes. Et d'une certaine manière, Paris peut être vécu comme cette Babylone où on est contraint de vivre dans cette Babylone pendant quelques années en attendant d'en sortir. Et pourquoi pas avoir le projet de quitter Paris, c'est pas l'objet de ma prédication ce matin. Mais je pense que la réponse de Dieu, tant que nous sommes là, est tout à fait pertinente. Tant que vous êtes là, vous êtes des résidents légitimes, vous avez votre place ici, et vous êtes amenés à y vivre pleinement. Pour avoir la tentation d'avoir un contact minimum avec notre environnement, limiter notre contact avec notre environnement simplement à notre bureau, ou vraiment s'il le faut à la ligne 13, mais ce serait le lieu de sanctification par excellence dans lequel nous traversons Babylone quotidiennement. Mais la réponse de Dieu est tout à fait pertinente pour nous. Vous avez plus à vivre ici que simplement attendre la prochaine étape. Et justement, je pense que Dieu nous transmet quelque chose de très précis par rapport à notre situation ici. C'est que nous ne sommes pas là juste pour être des résidents, juste pour profiter de la ville et tout ce qu'elle peut apporter de positif, parce qu'il peut y avoir des choses positives à Paris. Mais c'est au contraire, ou peut-être pas au contraire, mais Dieu précise que c'est parce que nous avons une mission, parce que nous avons un rôle ici. C'est parce que nous avons une mission dans ce lieu, que ce soit Paris, la région parisienne, dans le 18e, là où vous habitez, que nous devons y être pleinement. Je vous relis le verset 7. « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Nous avons la mission de bénir le lieu où nous sommes, quel qu'il soit. Et c'est quelque chose d'absolument étonnant quand on pense à la situation d'Israël en Babylone. C'était quand même leur envahisseur et ce n'était pas sous la contrainte. Peut-être que être muté à Paris, c'est vécu comme une déportation forcée, mais là, c'était beaucoup plus littéral que ça. Ils avaient probablement tué une partie de leur famille, ils avaient détruit leur pays, ils étaient contraints d'être en Babylone. Et le message de Dieu pour eux, c'est « Bénissez Babylone, cherchez son bien, cherchez sa, le terme c'est le shalom, sa prospérité, son bien-être, sa paix. C'est votre mission dans ce lieu. » Et Jésus ne nous dit pas quelque chose de différent à ce sujet-là. C'est lui qui nous dit, notamment en Matthieu 5, d'aimer nos ennemis. Et pour eux, Babylone, c'était littéralement leurs ennemis. Et dans ce même chapitre, en Matthieu 5, Jésus nous dit la chose suivante. « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous avons une mission ici de luire, d'apporter la lumière de Dieu dans cette ville de Paris. Et peut-être qu'on peut se concentrer sur tout ce qu'il peut y avoir de décourageant ici, dans tout ce qu'il peut y avoir de difficile, et peut-être oublier à quel point nous avons cette opportunité de manifester l'amour de Dieu là où nous sommes. En fait, l'important, ce n'est pas de savoir si le lieu où nous sommes est une bénédiction ou une malédiction pour nous. Ce n'est pas de savoir si c'est le meilleur lieu qui puisse exister ou le pire, mais plutôt de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces circonstances. Nous, quel est notre rôle pour rechercher la paix et prier pour la bénédiction de cette ville? Alors, dans ces premiers versets, on voit qu'on est appelé à vivre pleinement dans Babylone, et à, non seulement à y vivre, mais à bénir Babylone. Mais, en fait, on n'a pas beaucoup avancé sur notre problème de départ. Le problème pour Israël, c'était, est-ce qu'on va être entièrement assimilé? Est-ce qu'on va perdre notre identité? Est-ce que le risque n'est pas trop grand de vivre pleinement à Babylone? Et Dieu répond clairement à cette question. Il reconnaît ce risque et il donne une réponse claire. Si on reprend le verset 10, « Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. » Dieu leur redonne cette perspective. Il leur dit, oui, oui, vous êtes là pour un moment, vous allez rester ici, habitez-y, c'est votre chez vous maintenant, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas de Babylone et que vous avez une espérance, vous gardez une espérance qui reste Jérusalem. Vous avez toujours cet espoir, Dieu sera fidèle et il vous ramènera en Jérusalem. Et c'est dans ce sens que, au chapitre 51, Dieu rappelle cette distance et il les appelle à fuir Babylone. Je vous relis Jérémie 51, verset 6. « Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, ne soyez pas réduits au silence dans sa faute, car c'est un temps de vengeance pour le Seigneur, il va payer de retour comme elle le mérite. » Il va y avoir un jugement de Babylone et Dieu ne met pas ça de côté. Ça reste la ville qui s'oppose à Dieu. Et dans ce sens-là, il n'est pas neutre pour nous d'être en Babylone. Et il y a un vrai risque pour nous d'être des Parisiens comme les autres, de perdre notre singularité d'appartenir au peuple de Dieu avant d'appartenir à la région parisienne ou à la France ou quelque autre origine. Nous appartenons d'abord au peuple de Dieu et si nous sommes dans ce monde rebelle à Dieu, nous ne sommes pas de ce monde rebelle à Dieu. Et c'est ce qui nous est rappelé tout à la fin de la Bible. On est à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 18. Dieu vient pour juger le monde. Et il présente ça de manière imagée en disant qu'il va faire tomber Babylone. Babylone est tombée, celle qui s'oppose, celle qui vit dans l'injustice, celle qui vit dans le péché. Le péché de Babylone s'est accumulé au fil des années, au fil des siècles. Et Dieu vient la juger. Et écoutez ce que Dieu dit aux chrétiens dans ce cadre-là. Apocalypse 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, donc de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Le message est clair. Nous ne pouvons pas faire partie de Babylone dans ce sens-là. Dans ce sens-là, nous ne pouvons pas devenir babyloniens. Et ça n'a pas un caractère géographique ici. Il ne s'agit pas de partir dans la banlieue de Babylone. Mais c'est Babylone dans tout ce qu'elle représente d'injustice, de péché et de société opposée à Dieu. Dans ce sens-là, nous continuons d'être non pas des babyloniens, mais des membres du peuple de Dieu à Babylone. Et c'est là où on voit que notre positionnement n'a rien de simpliste. Nous sommes à la fois pleinement résidents, légitimement résidents là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous travaillons, mais en gardant la spécificité de notre identité. Et je crois que c'est exactement ce que Paul dit quand il utilise le vocabulaire d'ambassadeur, quand il se présente lui-même en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. C'est le propre de l'ambassadeur de vivre dans une autre culture. Si on prend, par exemple, l'ambassadeur d'Allemagne en France, il vit pleinement en France toute l'année, il parle très bien français, il a des relations avec tout un tas de Français dans toute la culture française, et pourtant il n'oublie pas qu'il est l'ambassadeur d'Allemagne en France. Il n'oublie pas que sa première loyauté appartient à son peuple d'origine. Et c'est ce que Paul nous invite à comprendre dans notre identité de chrétien. En Philippiens 3, 20, il dit la chose suivante, « Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Il ne dit pas que son seul rôle sur terre, c'est d'attendre d'aller dans cette cité céleste, mais il n'oublie pas qu'il appartient à une autre cité, sa nationalité est différente. Il est un citoyen du royaume de Dieu, présent sur cette terre avec une mission. Ainsi, si nous sommes pleinement résident légitime de Paris et de sa région, nous le sommes en tant que citoyens d'un autre royaume. D'un côté, nous ne sommes pas des touristes qui sont là juste pour passer, et d'un autre côté, nous ne sommes pas pleinement citoyens de cette société. Nous sommes des résidents qui représentent un autre royaume. Et c'est, je crois, exactement ce dont notre société a besoin. Notre société n'a pas besoin de plus de touristes qui viennent profiter de ce qui serait le meilleur et de partir dès qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Et quand je dis touristes, ce n'est pas forcément ceux qui viennent juste pour les vacances, mais même venir pour le travail quelques années et puis repartir en ayant obtenu le meilleur et en laissant le pire. Et Paris n'a pas non plus besoin de plus de personnes qui seraient comme tout le monde et participeraient de la même manière aux problèmes qui peuvent être les nôtres. Mais au contraire, là où nous sommes, dans notre travail, dans notre famille, dans notre quartier, nous avons une société qui a besoin de personnes prêtes à pleinement s'investir, mais pleinement s'investir pour apporter quelque chose de différent, pour apporter la saveur de l'Évangile dans chacune des situations dans lesquelles nous pouvons vivre chaque jour. Et peut-être que ça peut paraître au-delà de nos forces et un peu fou, mais on a au moins une aide très nette dans cette mission que nous avons, c'est de pouvoir nous appuyer sur le modèle de Jésus. Parce qu'au bout du compte, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été pleinement résident de cette terre, il y a vécu, il s'est fait homme, il s'est incarné, mais pas seulement, il est devenu un être humain avec tout ce que ça implique de relations sociales. Il était là dans le temple, il était là avec les chefs religieux, il était là avec les collecteurs d'impôts, il était là avec les prostituées, il était là avec les gouverneurs, il était là pleinement dans la société. Et pourtant, de ce qu'on voit dans les évangiles, personne ne s'est dit « Ah, mais Jésus, c'est un gars comme tout le monde, il fait juste partie de notre société comme tout le monde. » Tout le monde avait remarqué. Il était pleinement là, mais d'une manière tout à fait singulière, d'une manière tout à fait différente. Et même si cette mission peut nous paraître hors de portée, nous avons ce modèle-là et nous pouvons, dans la grâce, avec nos échecs et les faiblesses qui sont les nôtres, pouvoir suivre Jésus aussi dans la manière dont il a été présent dans sa culture, mais d'une manière différente. Alors, peut-être que tout ça paraît très général pour vous, d'apporter, de rayonner de la lumière de l'évangile dans notre société, ça sonne peut-être bien, mais à quoi ça ressemble concrètement? Alors j'avoue que je suis parfois un peu réticent à donner des exemples trop précis, parce que en fait ça peut prendre tout un tas d'aspects. Si vous reprenez les évangiles, si vous reprenez tout le Nouveau Testament, vous pouvez vous-même vous demander, mais à quoi ça ressemble pour moi de le vivre dans ma société? Donc c'est la mission de toute une vie de se poser cette question, à quoi ça ressemble là où je suis. Mais je pense qu'il y a au moins trois aspects qui sont indispensables. Et le premier est directement dans le verset 7, c'est que ça commence par prier, d'intercéder pour la ville. Parce qu'au bout du compte, on ne veut pas y aller avec nos gros bras pour changer le monde, mais on veut que Dieu change le monde au travers de nous. Alors la première étape est nécessairement de pouvoir prier pour notre travail, notre quartier, notre famille, là où Dieu nous place. Je sais que personnellement, un élément qui m'aide, c'est de pouvoir être soit sur la butte Montmartre devant le Sacré-Cœur et de voir tout Paris, ou de la même manière d'être en haut du domaine de Saint-Cloud et de voir tout Paris d'un coup. Pour moi, ça m'amène nécessairement à prier pour Paris, parce qu'on voit l'immensité de ce que ça représente, et d'une certaine manière, on peut sentir l'immensité du besoin et de la tâche qui nous dépasse. Alors là, on est amené à se dire, mais il faut que ce soit Dieu qui intervienne, il faut que ce soit Dieu qui soit le moteur du changement pour cette ville. Je pense qu'il y a aussi besoin de pouvoir créer des relations, et c'est très lié au fait d'être résident légitime, pleinement présent dans la société. Paris a besoin de connaître des chrétiens, et de connaître des chrétiens plus qu'en superficie, et pas simplement des personnes qui vont leur dire que Jésus est ressuscité, même s'il le faut, mais des personnes qui vont pouvoir vivre l'évangile auprès d'eux et leur démontrer, qui vont pouvoir leur dire, oui, Dieu est amour, il nous pardonne, c'est un Dieu de paix, mais qu'ils puissent voir cet amour, ce pardon et cette paix lorsqu'ils créent des relations avec nous et lorsqu'ils vivent à notre contact. Et enfin, au-delà de prier, de nouer des relations, il y a aussi une place pour agir très concrètement pour bénir notre société. Et ça peut prendre là aussi 10 000 formes, et les besoins sont tellement immenses que nous ne manquons pas d'opportunités de bénir nos sociétés. Mais je voudrais quand même citer le travail qui est fait au tabernacle, en particulier au travers de la diaconie. Et peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce qui se fait, c'est aussi pour ça que je me permets de le mentionner. Mais ce qui est fait d'octobre à juin, il y a environ 60 colis par semaine qui sont distribués au 167 juste à l'angle de la rue par des membres de notre église. Et de décembre à mars, il y a un repas chaud qui est apporté juste au sous-sol tous les samedis midi pour une cinquantaine de personnes. Et pour moi, c'est une manière évidente de pouvoir bénir Paris, parce que les besoins sont là. Et je crois que ça doit être une fierté pour nous de savoir que si l'Église est connue dans notre quartier, elle n'est pas connue par tout le monde, mais beaucoup de ceux qui connaissent l'Église au travers de ce qui est fait dans la diaconie, dans ces distributions de colis alimentaires et de repas. Et c'est une occasion pour chacun d'entre nous, et là aussi il y a des besoins évidents de bénévoles, mais c'est une occasion manifeste pour nous de pouvoir être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et bien sûr, ça ne se limite pas à ça. Pour en citer d'autres, on est en contact avec At Home, qui est une association qui intervient auprès des migrants aux portes de la chapelle. Je suis en contact également avec une branche d'OM qui travaille contre le trafic de femmes nigérianes dans la prostitution dans les quartiers qui sont juste à côté de nous. Les opportunités sont infinies de pouvoir briller, et de briller concrètement par nos actions, par notre prière, par nos relations que nous créons, mais aussi par nos actions concrètes. Alors voilà, je voulais mais pas que ce message soit un poids pour cette rentrée, peut-être que ça vient se glisser au milieu de tout un tas d'éléments déjà intenses pour ces semaines de rentrée. Mais nous pouvons prendre cette mission ensemble, et ce n'est pas la mission d'une personne, mais qu'ensemble, en tant qu'Église du Tabernacle, ensemble, Église de Paris, il y a tout un tas d'églises avec nous qui agissent dans ce sens, que nous puissions à la fois être pleinement là où nous sommes placés par Dieu, y être pleinement pour bénir ceux qui sont autour de nous, et le faire en gardant notre saveur, en gardant notre singularité de peuple de Dieu, sans devenir le modèle de l'ensemble de notre culture, mais être présent dans notre culture pour pouvoir apporter la saveur de l'Évangile, et que nous puissions continuer de le faire avec humilité, avec les ressources qui sont les nôtres, nos ressources qui sont limitées, mais avec la foi que Dieu aussi nous accompagne, et avec la foi que nous sommes en train de marcher à la suite de Jésus, en suivant son modèle de ce que lui a fait sur cette terre. Alors je nous invite à prier que Dieu nous accompagne pendant toute cette année pour vivre cette mission qu'il nous donne. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes en toutes circonstances, y compris à Babylone, y compris lorsque nous pouvons être face à une société où nous pouvons voir ce qu'il y a de plus difficile et être submergés par les besoins. Mais Seigneur, permets-nous d'être une église, d'être ton peuple au milieu de Paris et de la région parisienne, de trouver notre place, non pas en tant que parisien parmi les parisiens, mais de trouver notre place en tant que peuple de Dieu qui fait rayonner ta lumière là où tu nous places, dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos écoles, nos universités, dans nos loisirs, dans nos quartiers. Seigneur, fais de nous un peuple qui rayonne pour ta gloire là où tu nous envoies. Amen.